Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour chers auditeurs, nous sommes en compagnie ce matin de Mgr Pascal Gollnisch pour parler de l'œuvre d'Orient, une association, fondation, née en 1856 et dont vous êtes depuis 2010 le directeur général. Vous n'êtes pas venu seul, nous saluons la présence d'Armel Milsand. Bonjour Armel.
Bonjour Sébastien.
Votre directrice de la communication, bonjour à tous deux, bonjour Mgr.
Bonjour.
L'œuvre d'Orient est engagée auprès des communautés chrétiennes dans 23 pays, depuis le Moyen-Orient, la Corne de l'Afrique, l'Europe orientale et l'Inde. Un peu d'histoire, 1856, c'est la fin de la guerre de Crimée et la France est reconnue protectrice des chrétiens de l'Empire ottoman. Fondation de l'œuvre, des écoles d'Orient par des laïcs, professeurs à la Sorbonne, alors là on remonte au 19e siècle, et pour revenir à notre époque, votre action se nourrit de quatre missions principales que vous allez nous décrire un petit peu. Je crois qu'il y a l'éducation, la santé, le soutien aux communautés chrétiennes d'Orient, et un dernier chapitre que vous avez ouvert personnellement il y a quelques années, qui est le patrimoine.
Oui, en effet, l'œuvre d'Orient s'est surtout développée parce que dans ces années de création, par donc des professeurs à la Sorbonne, ce n'est pas rien, parce que ça veut dire en plein 19e siècle, ce sont des laïcs, catholiques, chrétiens, bien sûr, la Sorbonne était une université chrétienne à l'époque, mais ce sont des laïcs, des professeurs qui ont voulu créer une œuvre. Oui, ils n'ont pas créé un énième ordre religieux, remarquable d'ailleurs, mais enfin, il y en a eu beaucoup qui ont été créés au 19e siècle. Et cela nous a donné quand même une perspective d'une certaine manière, certes d'église, nous sommes une œuvre d'église, mais en même temps, nous avons une certaine autonomie, nous sommes une œuvre laïque aussi. Voilà, c'est un peu notre double ancrage. Alors oui, vous avez raison, ces quatre missions, au départ nos fondateurs voulaient essentiellement insister sur l'éducation, c'était les professeurs, et ils avaient compris déjà que tout se joue sur l'éducation. Et notamment la lutte contre le fondamentalisme, contre le fanatisme, c'est l'éducation qui est le véritable remède. Très vite, ils se sont rendus compte que, à côté de ces œuvres d'éducation, souvent menées par des religieux et des religieuses venues de chez nous, et des ordres de Saint-Vincent de Paul, des Lazaristes, des Filles de la Charité, des Jésuites, des Dominicains venus de chez nous. Par exemple, en Irak, les Dominicains français ont fait une action absolument extraordinaire jusqu'à nos jours. Ces mêmes religieuses et religieux qui accueillaient dans leurs écoles des chrétiens, mais aussi des musulmans, des riches et des pauvres, et parfois des très pauvres, des garçons et des filles, ce qui nous semble relativement évident aujourd'hui, mais ce qui n'était pas à l'époque. Donc ça a eu un rôle de promotion de la femme tout à fait considérable. D'ailleurs, souvent, quand je rencontre des responsables musulmans, la première chose qu'ils me disent avec fierté, c'est « je suis un élève de l'école des frères, des sœurs, des pères, etc. » Et donc, ces mêmes religieuses et religieux animaient des institutions de santé. Au début, des dispensaires de village. Inutile de vous dire que la santé dans la région, au 19e siècle, c'était pas très brillant. Et petit à petit, ces dispensaires sont devenus des hôpitaux, parfois des grands hôpitaux, et puis des hôpitaux spécialisés. Et encore aujourd'hui, ces religieux et religieuses, et maintenant des laïcs, bien sûr, chrétiens, sont très engagés dans le fait d'entourer les personnes ayant un handicap mental. Ce qui est un peu comme dans la France des années 30-50, avant la création de l'Arche par Jean Vanier, est perçu parfois comme une honte sociale. Et donc, cette action a permis de remettre à l'honneur, par exemple, l'enfant ayant un handicap social, et non pas comme une honte, mais comme un don, comme une richesse. Et ça, c'est une révolution des mentalités.
Alors, j'ai mentionné 23 pays, plusieurs continents. On ne peut pas parler, évidemment, de tous ces endroits où l'œuvre d'Orient soutient des communautés locales. Alors, vous êtes un acteur direct, c'est-à-dire que vous mettez en place vos projets et vous les suivez, mais surtout, vous soutenez déjà des initiatives qui sont existantes.
Oui, en réalité, nous avons très peu d'actions directes. Parce que, vous savez, si nous avons nos actions à nous, alors depuis Paris, on va monter un projet, et généralement, on se casse la figure. Et malheureusement, peut-être, dans les organisations internationales, il y a trop de projets directs. Nous sommes des compagnons de route. Nous sommes des chrétiens de France, même si nous voulons également nous développer dans d'autres pays, comme la Grande-Bretagne, la Suisse, la Pologne, l'Italie, l'Espagne. Mais pour le moment, nous sommes essentiellement français, mais nous sommes des membres de la communauté française qui veulent être des compagnons de route de leurs voisins, que sont les personnes du Moyen-Orient, parce que c'est quand même surtout aux proches au Moyen-Orient que nous agissons. Et les auditeurs doivent comprendre que ces populations du Proche et du Moyen-Orient, ce sont nos voisins. C'est notre village, c'est notre quartier. Bien sûr, ce qui se passe en Amazonie ou en Corée, c'est très très important. Mais c'est même un peu loin. Là, c'est vraiment à portée de main. Et je pense que les événements actuels rappellent que ce qui se passe en Syrie, en Égypte, ce qui s'est passé en Libye, même si la Libye n'est pas dans notre terrain d'action, c'est tout à fait à nos portes. À nos portes.
Est-ce que vous reconnaissez l'action de l'œuvre d'Orient comme celle d'une ONG, par exemple, qui est un...
Par certains aspects, nous sommes une ONG, si on prend l'étymologie, nous sommes une organisation non gouvernementale, en lien avec des organismes internationaux, en lien avec les services français, notamment les services diplomatiques. Je me présente toujours aux ambassadeurs français dans les pays où je vais et je leur explique ce que nous faisons. Car comme nos dons sont, comme pour toute association ou fondation, déductibles fiscalement, d'une certaine manière, l'État français collabore au financement de notre action. Et donc c'est tout à fait normal que nous travaillions en lien avec les services de la France à l'étranger, même si nous avons notre indépendance et même si je respecte beaucoup, beaucoup la diplomatie française, qui est trop mal connue en France, nous pouvons aussi avoir des analyses différentes dans tel ou tel pays.
Ce qui me permet d'ouvrir une parenthèse pour la refermer aussitôt sur la question de vos ressources et que vos comptes sont publiés. On peut les consulter sur le site internet de l'œuvre d'Orient. J'en ai fait l'expérience avant de nous retrouver ce matin. Ce qui permet un petit peu d'apporter de clarté aussi dans le débat actuel parce qu'il y a quand même une transparence qui fait plaisir. Ce sont des montants importants qui permettent effectivement... vous avez très peu de frais de fonctionnement, hein, ce qui est aussi important par rapport à ces ONG sans critiquer bien entendu personne, mais vous faites vraiment attention, me semble-t-il, à donner le maximum de ressources à toutes ces communautés, hôpitaux, écoles que vous soutenez.
Oui, nous avons un conseil d'administration qui est très vigilant sur ce point. Et puis, c'est une conviction. Enfin, tout frais de fonctionnement, finalement, manque à nos donateurs. Ceci dit, nous avons besoin d'un fonctionnement. C'est complètement absurde de penser qu'on pourrait s'en dispenser. Et pour mener une action de qualité, une action rigoureuse, nous avons été validés par ce qu'on appelle le comité de la charte, c'est-à-dire cet organisme qui donne un visa de bon fonctionnement rigoureux à un certain nombre d'associations. Et nous avons été très heureux d'avoir été validés ainsi par ce comité de la charte, le comité du don en confiance, qui valide un certain nombre de manières de faire, de procédures avec rigueur. Et je crois que nous devons nous développer dans une amitié avec les chrétiens d'Orient. Il y a une part affective non négligeable. Nous les aimons et ils nous aiment. Vous savez, dernièrement, le patriarche grec Melkite, les Grecs du sud de la Méditerranée, est venu à Paris et en partant, il m'a dit « Maintenant, j'ai compris à quel point vous nous aimez ». Et pour nous, c'était vraiment une belle récompense qu'il nous dise cela. Mais en même temps, nous devons avoir le professionnalisme et la rigueur.
Alors c'est pour ça qu'il vous a fait archimandrite de son église.
C'est son prédécesseur.
Ça fait partie de ces titres que vous avez. Je vois aussi que vous êtes corévêque de l'église syriaque catholique. Et là, plus classiquement, vicaire général de l'ordinariat des catholiques orientaux en France.
Alors les deux premiers, c'est essentiellement, j'allais dire honorifique, mais c'est de fait un geste de confiance qui a été fait par deux patriarches, le patriarche syriaque et le patriarche grec, avec lesquels nous avons des relations confiantes, de bonnes relations, mais aussi parfois des discussions vives, franches, comme disent les diplomates. Hein. Mais c'est l'amitié qui le permet aussi. En revanche, vicaire général pour les orientaux, c'est pas du tout honorifique. C'est une mission que j'ai reçue, comme le fait d'être directeur de l'œuvre d'Orient, je reçois ma mission de l'archevêque de Paris, je ne me suis pas promu tout seul, non, pas du tout. C'est une mission que je reçois de l'archevêque de Paris, qui consiste à l'assister pour sa tâche, parfois méconnue, d'être l'évêque pour les communautés orientales qui sont en France et qui n'ont pas d'évêque. Voilà, donc c'est une sorte de diocèse personnel, l'ordinariat. Et donc il y a les communautés à Marseille, à Lyon, à Strasbourg, à Tours, à Paris bien sûr, et dans d'autres, en Corse, il y a une communauté grecque à Cargèse, voilà. Et donc c'est tout cela accompagne ces communautés. Donc c'est une grosse tâche également.
Nous sommes ce matin en compagnie de Mgr Golnisch et d'Armel Milsan pour évoquer l'œuvre d'Orient dans l'émission Chrétien d'Orient. Alors Armel, je me tourne vers vous maintenant, vous êtes directrice de la communication pour l'œuvre d'Orient. En quoi consiste votre tâche ?
À la communication de l'œuvre d'Orient, on a deux missions. On a une première mission qui est une mission d'information. Très souvent, quand on va en Orient, les chrétiens orientaux nous disent « parlez de nous ». Alors on se dit « mais on parle tout le temps de vous, on en parle beaucoup en France, vous savez ». Pour ça, on a différents moyens, on a différents outils, on a des publications, nous avons notre bulletin qui est trimestriel, qui donne des informations sur le terrain de géopolitique, d'histoire, de culture. On a notre lettre d'information qui explique un peu mieux nos projets sur le terrain. Telle école en Syrie a besoin de soutien pour la rentrée. Telle école au Liban a besoin de matériel scolaire. Tel hôpital en Éthiopie a besoin de ça. Voilà, c'est ce type d'information. Et puis surtout, on a toute notre action sur le site internet, dans notre newsletter et sur les réseaux sociaux.
Voilà, site internet qui est très bien fait, donc j'invite vraiment nos auditeurs, on le mettra en lien sur la page de Chrétien d'Orient sur le site de France Culture. Parlons un petit peu des volontaires, c'est une question qu'on nous pose souvent, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors voilà, il faut se renseigner, il faut lire, il faut écouter bien entendu, mais il y a peut-être aussi un moyen d'agir plus directement, bon, de faire des dons bien entendu.
Bien entendu.
Alors vous accueillez des volontaires je crois.
Tout à fait, on a beaucoup de demandes de jeunes qui veulent donner de leur temps pour aller à l'étranger, pour mieux connaître. Il y a vraiment une grande notion d'amitié. Actuellement, on doit avoir 70 jeunes et c'est un peu du sur-mesure. Ils vont dans les communautés, là où elles ont besoin. Ils vont aider dans les domaines historiques de l'œuvre d'Orient, c'est-à-dire dans l'éducation, dans les actions sociales auprès des petits-enfants, des personnes handicapées, des choses comme ça. Et puis, également, ils peuvent aider sur des aides ponctuelles, des besoins, par exemple, spécifiques concernant des travaux, des besoins de communication. En fait, les communautés nous remontent les besoins qu'elles ont. Qu'elles nous disent vraiment, on a besoin de tel jeune à tel endroit pour qu'il nous accompagne, voilà. Et on est assez émerveillés de ces jeunes qui partent et des fruits de ces missions. Et il y a des missions longues, pardon, et des missions courtes. Et c'est vrai qu'on privilégie, nous, les missions longues, parce qu'elles permettent une meilleure compréhension et puis un travail sur la longueur.
Mission longue, ça peut aller jusqu'à combien de temps ?
Alors, les missions longues, c'est un an, de 9 mois à un an, mais on a de plus en plus de jeunes qui nous demandent de renouveler leur mission. Et ces jeunes, ils peuvent partir en Irak, majoritairement au Liban, mais aussi en Terre Sainte. On va bientôt ouvrir des missions en Roumanie. Bref, sur le site, on détaille aussi les différentes missions.
Et vous prenez en compte la formation de ces jeunes, bien entendu, pour les orienter sur des fonctions où ils peuvent apporter leur expertise ?
Oui, il y a tout un travail en fait de discernement avec eux pour voir là où ils seront le plus utiles et eux ce qui les comblera le mieux. Et puis ensuite, il y a la réalité et là où on a vraiment besoin d'eux. Donc on essaye de joindre ces deux missions.
Mgr Golnisch, je me tourne vers vous. Maintenant, je crois que vous étiez en Syrie au printemps dernier. L'œuvre est présente aussi sur le terrain syrien. Quelles ont été vos impressions ? Je crois que la jeunesse vous a particulièrement touché.
Oui, j'étais très marqué dans ce pays qui est quand même très détruit par cette terrible guerre civile qui n'est pas terminée, par la volonté des jeunes que j'ai rencontrés qui aiment leur pays, car un chrétien de Syrie, c'est un Syrien qui aime son pays. Un chrétien d'Irak, c'est un Irakien. Un chrétien d'Égypte, c'est un Égyptien. Ce ne sont pas des Occidentaux expatriés. Eh bien, ces jeunes Syriens veulent que la Syrie vive. Et permettez-moi, rapidement, il faudrait y mettre beaucoup de nuances, mais de me dire que pour des raisons politiques, l'Union européenne a imposé des sanctions économiques à la population syrienne depuis quelques mois. Voilà une population qui souffre de 9 ans de guerre. Il faut voir ce que c'est. Ce sont des villes détruites. C'est comme les villes normandes en 44, des villes rasées. Des centaines de milliers de morts. Ça veut dire des millions de blessés. Ça veut dire une économie détruite. Quelle est notre réponse? Eh bien, nous imposons des sanctions économiques. Je voudrais vraiment faire un appel au... il va donc y avoir de nouveaux instances, de nouvelles instances européennes. Je vais vraiment leur demander de revoir ça. Ça ne va pas. Je comprends très bien qu'il y a des questions politiques, et des questions complexes d'ailleurs, mais on ne peut pas punir une population qui sort de 9 années de guerre de la sorte. Et donc, il faut absolument que ça se termine. Mais ces jeunes, de fait, veulent reconstruire le pays. Les jeunes chrétiens que j'ai rencontrés m'expliquaient, mais nous, on veut reconstruire Alep, on veut reconstruire Homs, mais on le fera avec des musulmans. Sans ça, on ne pourra pas le faire. Et ils font ces pas extraordinaires. Moi, je ne sais pas si à leur âge, j'aurais été capable de faire ces pas, dans ce contexte de guerre civile, de dire, amis musulmans, reconstruisons quelque chose ensemble. Et que faut-il reconstruire? Il faut reconstruire des maisons, des écoles, des hôpitaux, il faut refaire une économie, une industrie, des routes, etc. Mais il faut reconstruire les cœurs, il faut reconstruire la capacité d'un vivre ensemble, et ça s'appelle la civilisation. Et je crois que nous sommes devant, actuellement, pour le Proche-Orient, devant un enjeu de civilisation. Si vous me permettez quelques développements, il n'y a pas de choc des civilisations. Relisons le livre d'Huntington que bien peu ont lu. On a lu le titre, Le choc des civilisations, et on parle là-dessus. En réalité, peu de gens l'ont lu, et peu de gens l'ont lu jusqu'au bout. La dernière page du livre, c'est de dire, Huntington dit la civilisation et ce qui peut empêcher les guerres à venir.
Voilà. C'est autre chose, c'est une nuance.
Et donc, il faut lire cette dernière phrase. Et donc, ce qu'il faut reconstruire au Proche-Orient, c'est une civilisation. Et je voudrais opposer la civilisation qui est une œuvre de paix, qui est une œuvre de profondeur, à l'idéologie. L'idéologie, c'est un pouvoir qui se sert d'éléments de culture pour se maintenir au pouvoir ou pour conquérir le pouvoir. Et il y a trop d'idéologie. Il y a trop d'idéologie, et il faut arrêter cela, il faut construire une civilisation. Ça veut dire qu'il faut que se mettent autour de la table des gens capables de prendre du recul. C'est pas en un an que ça s'approfondit. Il faut reconstruire une civilisation pour le Proche-Orient, pour donner une perspective à la jeunesse. La jeunesse, son principal drame aujourd'hui, c'est la désespérance, c'est le désespoir. Nous ne pouvons pas trahir cette nouvelle génération.
Le désespoir, donc le départ.
Et par conséquent, évidemment, si elle est désespérée, c'est les folles issues qui n'en sont pas de l'exil. Alors on va traverser la Méditerranée à la nage, dans l'indifférence générale d'ailleurs de nombreux Européens, ou traverser la Turquie à pied. Non, ce n'est pas une solution, c'est indigne. Nous devons non pas le faire pour eux, mais les aider à construire la civilisation qui permettra au Proche-Orient de prendre sa place, toute sa place, dans le monde, je veux dire, d'aujourd'hui et de demain et après-demain. Mais ça vient très vite. Autrement dit, il y a, par exemple, des atteintes aux droits, des atteintes à la dignité humaine qui ne sont pas tolérables aujourd'hui. Et il faut absolument que le Proche-Orient dépasse cela. C'est l'œuvre des Orientaux en général et des chrétiens d'Orient en particulier qui sont attendus par leurs amis musulmans là-dessus. En Irak, on me dit bien, nous avons besoin des chrétiens pour faire avancer cette notion de droit et de droit de l'homme dans notre pays. Et donc, je crois qu'il y a là quelque chose d'essentiel. Et c'est pour cela que nous voulons nous attacher au patrimoine. Parce que le patrimoine est un élément de composant de cette civilisation. On voit bien que le Daesh, par exemple, a voulu, en éradiquant des populations d'une région donnée, les Yézidis et les chrétiens, ce qui est quand même un comportement génocidaire, pour accentué cela, a voulu détruire leur patrimoine, parce qu'on détruit les racines et on détruit ce qui peut contribuer à la construction d'une civilisation.
Alors ça, c'est une mission que vous avez mise en place il y a quelques années, justement face à ce flot de destruction, par rapport à des réflexions aussi. On a vu le rapport Persona qui est sorti récemment et qui a été remis au président de la République, où la question du patrimoine devient importante, avec une fondation aussi, Alif, qui est en charge de cette de porter cette voie aussi de la nécessaire reconstruction, de la nécessaire préservation du patrimoine. J'en reparlerai voilà avec d'autres interventions dans des émissions à venir. C'est une question qui vous tient à cœur, je pense.
Oui, bien sûr. Monsieur Persona est donc un haut fonctionnaire qui a été chargé de ce rapport pour le président de la République. Et nous voulons, parce que les rapports, il y en a beaucoup, mais nous voulons que ce rapport soit suivi d'actes, bien sûr, parce que le patrimoine, on l'a perçu en France avec l'incendie de Notre-Dame. Et on voit bien que l'incendie de Notre-Dame a touché quelque chose, j'allais dire, de l'âme de la France. De l'identité de la France. Imaginons, enfin, je veux pas être prophète de malheur, mais imaginons que le château de Versailles soit incendié, ce serait et quelque chose aussi de l'identité de la France. Là, le Daesh a voulu détruire cette âme. Et nous devons, vous comprenez bien que dans une ville comme Mossoul, où les lieux de culte ont été détruits, où la moitié de la ville est détruite. Le fait de reconstruire une église, de restaurer une église, que parfois nous avons pu faire aussi avec l'aide de musulmans qui sont venus nous aider pour déblayer les gravats et pour aider à reconstruire. Vous voyez donc qu'autour de ce patrimoine, le patrimoine ne fait de tort à personne. C'est pas un instrument de guerre, c'est un instrument de paix, c'est un instrument dans lequel on peut retrouver des racines. Vous savez, moi j'ai été très frappé en Irak et des yézidis ont absolument voulu me conduire dans un petit village yézidi parce que leur temple avait été détruit. Et ils voulaient qu'avec eux je rallume le feu. Parce que c'est un culte du feu dans leur pratique. Ça m'a beaucoup touché. Ce n'est contre personne, ça ne fait de mal à personne.
Merci à tous deux d'être venus.
Un grand merci Sébastien.
Merci à vous.
Je rappelle, Monseigneur, le titre de votre livre, Chrétiens d'Orient, résister sur notre terre. Nous avions fait un entretien il y a quelques années, le Cherche Midi en 2016. Chrétiens d'Orient, résister sur notre terre. Je remercie Dany Journaud, Claire Poinsignan et Alain Joubert pour la réalisation et la technique de cette émission. Nous retrouvons maintenant le service protestant. Dimanche.